Sud Radio, il est 1h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et nous allons nous mettre d'accord, c'est évident, avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication, vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié « La com est un métier » aux éditions Bréal Studirama et également « L'anthologie de la com » toujours aux éditions Bréal Studirama. Anne Durez, présidente de l'association Femmes de Loi, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse, et Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. La SNCF achète la paix sociale. Je ne mets même plus de point d'interrogation. Autour des contrôleurs aériens, ils viennent d'annoncer qu'ils levaient leur préavis de grève. Ça va coûter un pognon de dingue aux entreprises aériennes, aux compagnies aériennes qui ont déjà pris leurs précautions en annulant les vols et en proposant des remboursements. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu. On va en parler dans un instant. Mathilde Panot, convoquée pour apologie du terrorisme. Et le Royaume-Uni qui veut expulser ses demandeurs d'asile au Rwanda. On continue notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Frédéric Fougerin, c'est un quoi, un coup de cœur ?
C'est une alerte, c'est un coup de cœur, oui, plutôt un coup de cœur. Si vous étiez dans le 17e arrondissement hier à midi, c'était mon cas, j'étais dans mon bureau, que vous soyez dans votre chez vous, à domicile, en bureau, en train de faire des courses, eh bien hier à midi, vous avez dû être sacrément surpris, en tout cas moi je l'ai été, quand votre téléphone a craché à un son très fort, inhabituel. C'était pas votre sonnerie, vous entendiez d'autres sonneries aux alentours. Et de quoi s'agissait-il ? Ben en fait, d'une alerte, d'un test fait par la préfecture de police. Alors, il y avait un sentiment de danger imminent, mais en fait c'est bien fait pour ça, hein, qu'il s'agisse d'un accident, d'un intempérie, d'une tempête, d'un attentat. Donc pas de panique après l'effet de surprise, mais c'est intéressant de voir que la préfecture de police est capable de tester sur une zone extrêmement ciblée un message immédiat à toute une population. Alors c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que les médias ou que les réseaux sociaux, qui resteront toujours très utiles dans ce genre de situation parce qu'ils apporteront informations complémentaires ou dans le temps. Mais en tout cas, pour avoir mené une alerte, alors je sais que ça avait été le cas il y a un mois dans le 15e, il y a deux mois dans le 13e arrondissement. Donc voilà, peut-être que c'est, je sais pas si c'est la préparation des JO, c'est le niveau d'alerte attentat.
Oui, c'est pour la préparation des Jeux Olympiques.
Ouais. En tout cas, c'est ultra efficace. Alors si, comme dans ce studio, ça nous arrivait qu'on avait oublié de couper nos portables, je pense que nos auditeurs en prendraient plein les oreilles. En même temps, s'il fallait évacuer, et il faudrait bien qu'on en soit informé aussi. Ouais. Mais bon, voilà, plutôt un coup de cœur. Ouais. En communication de crise ou en situation de crise, on est souvent dans la réaction et beaucoup moins dans la préparation ou l'anticipation. Bah, là c'est mon métier. Ouais, là, on est dans l'anticipation et la préparation. C'est aussi une façon aussi d'habituer la population à avoir. Avant, on avait les cloches des églises qui sonnaient en cas d'incendie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, on ne réagirait pas. Donc voilà, bon, c'est un petit coup de cœur pour
Vous l'avez reçu aussi. Moi, j'ai pas reçu.
Il fallait être dans le 17e à midi. C'était ciblé sur l'arrondissement.
D'accord.
Que vous habitiez ou non, peu importe, c'était si vous étiez physiquement dans la zone ciblée. D'accord. À ce moment-là, votre téléphone hurlait et vous donnait ce message d'alerte vous indiquant que c'était un test.
Anne Durez. Oui, d'abord c'est rassurant.
Ouais. C'est rassurant.
Je dirais heureusement qu'il y a des exercices de crise. J'ai participé à titre professionnel à des exercices de crise extrêmement rodés et je trouve qu'il est indispensable, hein. Nos forces de police, enfin tous ceux qui concourent à la prévention de la sécurité, les forces armées, maritimes, etc., sont rodés à ce type d'exercice. Et je trouve très bien, en effet, d'y associer la population et de tester comme cela l'impact et l'opérabilité des systèmes. C'est rassurant et c'est indispensable.
Mmh. Mmh. Christine Bouillot.
Oui, alors on a connu ça aussi sur le pourtour, Patrick Vignal doit le savoir, méditerranéen, sur des alertes de tsunami à grande échelle également, hein, où toutes les populations, et là on était sur vraiment l'arc méditerranéen, des deux côtés des frontières, ça allait de la frontière espagnole à la frontière italienne. Donc effectivement, on est capable aujourd'hui de tester ces systèmes d'alerte, ce qui est un véritable progrès, parce que dans les précédentes catastrophes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient accidentelles, c'est vrai que le défaut principal, c'était comment prévenir les populations. On le sait, par exemple, quand il y avait des inondations, des épisodes cévenols dans la partie, ou des moments des vagues submersion, c'est d'arriver à toucher absolument tous les habitants d'une zone concernée qu'il y a un danger réel. Et ensuite, quelle réaction on puisse avoir. Donc il faut à la fois préparer les populations et à la fois préparer le personnel de secours, la sécurité civile, les CHU, les SAMU, etc. Et pour la petite histoire, demain à Toulouse, il y a un congrès qui se tient, c'est les rencontres internationales des réponses à tout ce qui est catastrophique, hein, puisque le SAMU a été créé ici à Toulouse, et ils vont proposer au personnel soignant et éventuellement aux journalistes, donc peut-être que j'irai faire un tour et je vous raconterai, de se mettre en situation de stress sensoriel, c'est-à-dire d'être capable de répondre, à faire des gestes précis, de soins, dans des situations de catastrophe naturelle. L'an dernier, souvenez-vous, il y avait eu un tremblement de terre dans le sud-ouest aussi, du côté de la Charente. Bah, il faut être capable de garder son calme et de répondre à des situations d'urgence auprès des populations, les mettre à l'abri, les soigner, etc. Donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Et je pense que du côté français, on n'est pas trop mauvais. On avance et on apprend des situations. Et les événements climatiques aujourd'hui font qu'on est obligé de se préparer. Et les événements terroristes aussi.
Un auditeur me dit que ça existe déjà à Tahiti pour les tsunamis. Donc effectivement, c'est un coup de cœur mérité. Et au moins, il y a une chose qui marche.
On a la gâchette facile pour critiquer, donc quand il y a des choses intéressantes,
Christine,
c'est bien de le dire.
Christine Bouillot, vous, votre coup de cœur ?
Alors, c'est un focus et surtout une petite réflexion. Alors, avec Patrick, on parlait d'argent, le salaire d'un grand patron. Moi, je vais vous parler de l'argent public. Et j'ai noté une petite phrase. Alors, je ne sais plus quel ministre l'avait dit. C'est « L'argent public est un bien collectif qui ne supporte pas le gaspillage ». Je vais vous parler de ça parce que des économies, on en cherche à faire absolument
partout.
Tous les secteurs. Et depuis un petit mois, depuis les vacances de Pâques, sont distribués dans les écoles les 4 millions d'élèves du CPO CM2, ces fameuses pièces de 2 euros pour les JO. Voilà, donc ça fait partie effectivement de ce qui est en train de se passer. Et petit focus, je vous en informe, c'est que dans le Tarn, tous les enseignants de toutes les écoles du département vont aller ce matin du côté de Castres et cet après-midi du côté d'Albi, eh bien restituer ce petit pactole à leur hiérarchie en disant ce n'est pas à nous de distribuer ces pièces de 2 euros. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ils se sont renseignés légalement. Sans un reçu officiel, on ne peut pas distribuer de l'argent à des mineurs. La deuxième chose, c'est que tout ça est accompagné d'un livret et c'est tout. Donc, ils ont assez peu d'éléments pour faire briller l'esprit olympique et l'esprit de l'olympisme et cette grande fête que moi, j'aime bien, parce que voilà, ça, c'est mon passif, que sont les Jeux olympiques. Donc, ils ont un petit peu de mal avec ça, que c'est un petit peu éloigné quand vous habitez les Monts de la Cône, au fin fond de la Montagne Noire, de penser à Paris 2024, qui sont un peu loin de tout ça, et que tout ça coûte la bagatelle quand même de 16 millions d'euros. Et que les premières pièces ont été distribuées, qu'on en retrouve déjà à la revente, entre 250 et 1000 euros la pièce de 2 euros. Alors que la Monnaie de Paris fasse une pièce collector
pour le grand public,
que les gens aimeraient acheter, c'est très bien. Mais ces enseignants nous disent, nous, on galère. On remplit des dossiers à n'en plus finir pour éventuellement mener des projets pédagogiques et on nous répond qu'il n'y a pas d'argent. Là, on a trouvé 16 millions d'euros pour distribuer ces pièces à 4 millions d'enfants du CP. Je rajoute, donc que fait-on pour les collégiens, que fait-on pour les lycéens? On veut faire de la France une grande nation sportive. Je peux vous dire que dans le monde associatif, dans le monde du sport, ces 16 millions d'euros feraient vraiment beaucoup, beaucoup d'heureux.
C'est vrai qu'il y avait eu une polémique et puis après, comme d'habitude, c'est retombé. Donc, je n'avais pas suivi non plus que ça avait été distribué. Et c'est vrai que c'est un petit peu aberrant. Pourquoi ne pas avoir fait une médaille, avoir fait autre chose que de donner 2 euros à des enfants? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick.
Écoutez, moi, j'étais ravi. Je commençais bien l'émission. Emmanuel Macron est rapide. Je vois qu'une auditrice me dit qu'à Sommières, quand il y a une crue, la mairie avertit. Et Christine, ça y est, voilà.
Et
Christine ne fait pas tatra.
Non, moi j'ai pas d'avis.
Non, mais moi j'ai un avis.
Juste le message.
Non, mais c'est bien,
le
message.
Et je trouve.
Et tous les enfants participent. Tous les enfants vont remettre cette.
Alors c'est les enseignants qui ont reçu ces cagnottes.
Ah d'accord.
Il y a un problème de sécurité.
Bien sûr.
Donc vous avez une somme d'argent quand même qui est. Il n'y a pas de coffre-fort dans les écoles.
Bien sûr.
Donc il faut déjà sécuriser.
D'accord. Ce sont les enseignants qui ont décidé de ne pas les distribuer aux enfants.
Qui ont dit nous, c'est pas notre rôle. sur le plan pédagogique, donner une pièce pour expliquer qu'il y aura des Jeux Olympiques avec voilà ce que c'est que l'olympisme, je pense qu'on est un petit peu à côté du sujet. En tous les cas, c'est pas comme ça, sans doute, que c'est la manière la plus simple de dire aux enfants faire du sport. Un, c'est bon pour la cohésion. Deux, ça rapproche. Deux, enfin voilà, il y a plein d'éléments qu'on peut mettre en avant. À travers une pièce et symboliquement donner une pièce de monnaie aussi collector que soit-elle, on voit déjà, d'ores et déjà, que c'est une symbolique qui ne fonctionne pas vraiment.
David. Peut-être le communicant.
Oui.
Ben on a déjà évoqué ce sujet, le sujet de la pièce ici. Ça serait intéressant de savoir qui est responsable, qui a lancé cette idée, qui l'assume et qui serait capable
le
de l'expliquer.
De la République, non ?
Non, bah,
c'est
alors,
le ministère de l'Éducation nationale.
C'est pas à ce niveau-là.
Maintenant que les enseignants jouent pas le jeu et décident de faire ce qu'ils veulent, c'est assez lamentable.
Allez,
ça me donne même pas envie de commenter.
On va marquer une pause et on se retrouve dans un petit instant. Moi, je vais vous parler de sport aussi. À tout de suite.
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues. D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Jour après jour vous redonne confiance de toute sa patience. Et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous pose vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle y par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard jusqu'à sa bouche, le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi, lui donne tout ce qu'elle a. Chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Alors, Christine, Anne Durez avait une petite réaction à ce que vous disiez, et Patrick Vignal également. C'est-à-dire que sur le principe, on se dit oui, c'est une bonne idée de rendre l'argent, mais ça ressemble aussi à une opération de com', hein.
Politique.
Oui, c'est-à-dire que, bon, on pensait comme ça, en aparté les uns les autres, qu'il y a des projets pédagogiques, même, j'allais dire, minimes mais symboliques, qui auraient pu être montés, peut-être une sortie faite avec plusieurs classes. Il est regrettable que, enfin, toute initiative n'est pas forcément bonne, mais il est regrettable que d'une symbolique, on fasse une autre symbolique. Hein, 16 millions d'euros, bah oui, pris globalement, c'est beaucoup d'argent, mais finalement distribué dans des écoles différentes, c'est peut-être aussi priver les enfants d'une joie ponctuelle pour célébrer à leur manière, avec leurs enseignants, dans une région, dans leur école, cette fête sportive, et puis les inciter à faire du sport. Donc ouais. C'est un peu regrettable, oui.
En fait, pourquoi on fait les Jeux ? Pour représenter un pays, une nation, c'est une célébration collective, mondiale, et à la fois c'est pour pouvoir permettre aux enfants de tout milieu de pratiquer une activité sportive. Moi qui suis judoka, chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, on augmente de 20% des adhérents. Dans ce cadre-là, moi, ce que je pourrais juste dire à ma modeste place, à ces enseignants du Tarn, pour moi, j'ai l'impression que c'est un symbole politique. Il faut en 10 ans, vous gaspillez l'argent par les fenêtres, on vous le rend. Mais qui garde l'argent, qui fasse une sortie pédagogique. Moi, je les invite tous à l'Assemblée s'ils veulent venir avec tous ces enfants. On parlera de sport, on parlera de cohésion sociale, on parlera de démocratie, on parlera de concertation et de négociation. Voilà ce qui peut être intéressant. Alors que là, ils vont faire quoi ? Ils vont les renvoyer à qui ? Au COJO ? À qui il
les
renvoie ?
Non, il les rend au rectorat.
Enfin, au rectorat.
Après le rectorat.
Mais chère Christine, accompagnez-les, voilà. Vos gamins du Tarn. Je suis sûr qu'ils seront ravis de découvrir l'Assemblée nationale.
Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants du Tarn qui ne sont jamais allés à Paris, arrivés au CM2. Ouais. Je pense qu'effectivement, dans la politique autour des JO, vous donneriez une place à tous ces gamins pour venir à Paris. Je veux dire, c'est ça aussi l'accessibilité des Jeux Olympiques. Il y a des centaines de Français qui ne verront pas la couleur des Jeux Olympiques. Ni l'odeur. Donc c'est ça que... moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Bien sûr que c'est une opération de communication contre une opération de communication. On peut penser ce qu'on en veut. Mais sur le plan pédagogique et symbolique, de dire aux enfants, les Jeux Olympiques, moi qui adore le sport, je veux dire, je pense que le sport est un vecteur de cohésion sociale dont notre pays a grandement besoin. De dire aux enfants, voilà, on vous donne une pièce de 2 euros, accompagnée d'un livret avec un message d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, d'Emilie Oudé-Castéra et un message de Tony Estanguet. En quoi, pédagogiquement, ça peut inciter un enfant à rejoindre une structure sportive pour faire du sport et aimer le sport ? Je vois pas. Le lien de cause à effet, je ne le vois pas. En revanche, Patrick, si vous me dites, on invite tous les enfants de primaire à venir visiter Paris... Pour montrer ce que sera la capitale, je pense qu'il y a des centaines d'enfants qui ne mettront jamais les pieds à Paris avant d'avoir 18 ans.
Partie d'un projet différent.
C'est une ville cachée, c'est compliqué.
Vous parlez de la cohésion du sport. Je voulais vous parler de cette information. La préfecture de l'Hérault a retiré l'agrément de la FFF au club de football 7. De Sète, qui ne pourra donc plus bénéficier de l'aide de l'État ni de celle de la municipalité, parce que le logo du club est considéré comme un signe emblématique de la religion musulmane. C'est effectivement un croissant avec une étoile, un croissant de lune avec une étoile, et qu'il aurait en plus délibérément choisi de ne pas développer la pratique du football féminin. Moi, j'entends autour de moi des parents qui disent, de garçons principalement, pardon, d'être aussi genré, dire je n'inscrirai pas mon fils au foot parce que
je n'aime pas ce qui se passe en ce moment dans les clubs de foot. Peut-être que vous connaissez un peu la situation.
Écoutez,
de ce qui
moi,
se passe
la chance,
à 7. Comment c'est possible? Comment ce club... Normalement, on n'a pas à mettre
ce type de... Moi, j'ai eu la chance d'être agent au sport de la ville de Montpellier pendant 15 ans. J'ai beaucoup développé les sports collectifs. Ce qui se passe à 7, en fait, et je voudrais vraiment saluer, vous savez, je dis les choses, on a un excellent préfet dans l'Hérault, François-Xavier Loche, et donc ils se sont aperçus effectivement qu'il y a des clubs, il y en a aussi dans les arts martiaux hein, d'ailleurs, qui sont en fait repliés sur eux-mêmes. Pas d'enfants, pas de femmes et pas de filles. Et donc ce que j'ai compris moi à travers le communiqué du préfet, c'est que le sport c'est universel. Le sport c'est tout le monde, surtout le foot. Moi j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de foot en 98. J'ai vu cette célébration collective, j'ai une image forte, oui. Une chirurgienne dentiste.
On est en 2024.
Oui, mais oui, pour vous montrer déjà. Chirurgienne dentiste, capable avec un petit jeune du quartier qui ne se retrouveront jamais dans la société pour l'amour du maillot et l'amour de la France. Et oui, certains clubs de foot se sont repliés sur eux-mêmes dans certains territoires, Valérie, où il faut être honnête,
ça
on a raté
aussi,
l'urbanisation.
Mais ça
c'est ce qui s'est passé à 7.
À Paris aussi.
Oui.
Ça existe aussi à Paris, moi.
C'est-à-dire qu'on a fait des ghettos. Oui. Et dans ce ghetto, il n'y a plus de filles, il n'y a plus de filles en short. Et donc, on sent qu'il y a un repli communautaire. Et donc, ce qui
avec
me semble
règles,
être vrai...
Avec des règles communautaires.
Oui, c'est-à-dire... Bah écoutez, moi, j'ai certains clubs d'arts martiaux où les gens, ils prient entre les combats. C'est leur problème. La religion, c'est personnel. Et donc, effectivement, on a ce débat-là, et le préfet a tapé fort en disant « Je ne veux plus agréer ce club. » Mais ne jetons pas l'opprobre sur l'ensemble des clubs de foot. Il y a des millions de clubs de foot à Montpellier.
Mais est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose quand même dans les clubs de foot aujourd'hui ?
Ben, le foot, c'est peut-être un peu radicalisé, peut-être en ce moment, mais il faut combattre ça parce qu'il y a des tas d'entraîneurs, il y a des tas de clubs. Moi, à Montpellier, il y a 23 clubs. J'ai un club dans mon quartier, il y a des femmes, il y a des filles, et ça fonctionne très bien.
Bon. Un mot, Christine, non ?
Oui, alors que la préfecture ait un contrôle sur toutes les associations sportives, ça fait partie de ses prérogatives. Hein. Tous les présidents de clubs savent qu'ils doivent signer une charte de laïcité, d'engagement républicain, veiller à la neutralité, effectivement, dans sa pratique. Et donc, à partir de là, il y a des sanctions. Après, le monde du foot, il y a eu des rapports, je crois, Patrick Vignal, sur la radicalisation dans le monde du sport. Ouais. Le foot, effectivement, est ciblé. Je sais qu'il y a d'autres sports de lutte également qui sont surveillés pour des pratiques qui peuvent être effectivement en désaccord avec le principe de la laïcité parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'école, donc c'est véritablement important et que le sport est aussi un moyen de c'est une porte d'entrée aussi pour les individus radicaux pour pouvoir approcher et oui, le foot comme c'est
du prosélytisme, très clairement.
Et comme le foot est le sport numéro un, c'est vrai qu'on le retrouve souvent de ce côté-là. Ouais.
Oui, puis il y a eu des violences sexuelles aussi, hélas, qui ont été à l'œuvre dans le monde du sport. Donc c'est important, comme vous le faites, de souligner que, y compris dans les associations sportives, dans les clubs de sport, il ne faut rien laisser passer.
Bah oui, mais c'est toujours le problème du contrôle. C'est toujours. Oui. Je vous conseille encore une fois le complément d'enquête demain soir sur France 2 qui parle de l'apprentissage et de la gabegie financière. À chaque fois qu'il y a des aides, vous avez toujours des gens malhonnêtes pour s'infiltrer et profiter de ces aides. On pense à la taxe carbone. Là, c'est absolument effarant ce qui se passe dans le domaine de l'apprentissage avec des formations bidons, avec énormément d'argent qui sont donnés aux entreprises. Et des jeunes qui n'ont pas de CDD ou de CDI derrière. Bon, je dévie un peu, mais c'est la question du contrôle. C'est la question de. Oui, c'est la question du contrôle. On lance des choses et puis après, on attend que les choses se passent.
Vous pensez pas, c'est aussi la responsabilité collective des Françaises et des Français.
Qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est-à-dire que normalement, enfin quand même, on vit dans un pays républicain, on vit dans un pays où normalement chacun doit respecter la règle, sauf quand je dis qu'on est dans une période du chacun pour soi ou du sauf qui peut, c'est le gars des aiguilleurs du ciel, c'est le gars des gens de la SNCF. En fait, je pense, et j'en prends ma part, hein, c'est qu'on a du mal à faire une nation en fait. Normalement, des associations de sociétés qui font de la formation devraient respecter les règles.
Bien sûr.
Et donc, c'est vrai qu'on est un pays de réboussiers, nous on dit ça avec Christine à l'Occitanie, où c'est vraiment le chacun pour soi, vous savez. On pense d'abord à soi et après à la collectivité. Est-ce que c'est la faute du politique ? on doit prendre une part, mais c'est aussi la faute des Français. Enfin, moi, je suis désolé pour les contrôleurs, je ne sais pas si on va en parler.
Oui, on va en parler.
On
tout
a
de
parlé
suite.
De la réforme des retraites, Valérie. Moi, vous vous rappelez, oui, j'étais décalé. Mais ça veut dire aujourd'hui que s'il n'y a pas de train, pendant les JO, tout le monde dira c'est la faute d'Emmanuel Macron. Oui. On ne se posera enfin, pas la question.
Ouais. Ben mais c'est un bras de fer. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. On marque une toute petite pause et on parle donc de cet accord avec la SNCF et puis les contrôleurs aériens qui visiblement ont obtenu ce qu'ils voulaient puisque le préavis de grève a été levé. À tout de suite.
Sud Radio Monde.
101.9.
Sud Radio.
Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille.
Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit alors jubile. Ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille.
Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Quel est le plus étonné des deux?
Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile. Ma fille.
Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille.
Je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais.
Que toujours on te touche comme moi maintenant. Comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille.
Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Allez, on va parler donc de la grève des contrôleurs aériens qui vient de se terminer. Enfin, le préavis de grève a été levé, donc visiblement un accord a dû être trouvé. Hier, on a évoqué cet accord également à la SNCF sur les fins de carrière avec tout de même un accord assez incroyable. Peut-être Patrick Vignal, vous pouvez nous rappeler ce qui a été accordé aux contrôleurs contrôleur, pas au contrôleur, oui, au contrôleur, oui, contrôleur SNCF, donc de pouvoir partir à la retraite, tout en est, c'est une sorte de pré-retraite payée, quoi.
En fait, c'est, oui, c'est un édredon doré, c'est-à-dire qu'ils partent 2 ans avant, 15 mois restant chez eux à 100% et 15 mois à 75%. En fait, le vrai débat politique, c'est quoi ? Est-ce que nous, les politiques, on sait concerter et négocier en amont ? Le vrai débat, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut se poser la réflexion sur les droits de grève. Est-ce que vous, Valérie, vous voulez prendre le train à n'importe quelle époque de l'année ? Est-ce que vous êtes obligé de subir ces grèves constantes qui coûtent de l'argent ? C'est une entreprise publique, je le rappelle, et qui nous empêche peut-être d'investir. Donc le vrai débat, c'est quoi ? On a eu cette réforme des retraites. Moi, j'étais assez décalé de ma majorité, mais j'ai envie de dire aux contrôleurs, en fait, vous faites comme les aiguilleurs du ciel, vous faites pression, parce qu'il y a un bel événement, c'est les Jeux. Mais est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir négocier avec des collaborateurs dans cette société ? Est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre la grève ? Et en ce qui concerne les contrôleurs, voilà, c'est quand même pas les plus mal payés, parce que moi, non, j'aimerais bien qu'on s'occupe...
5 500 euros brut minimum, retraite à 59 ans contre 64 pour la majorité des Français, et la réforme des retraites n'avait pas du tout changé la donne pour eux. Donc c'est vrai que 32 heures de travail par semaine... des heures supplémentaires, et il réclamait des jours de congé en plus, 26 jours en plus.
Vous savez, ce matin, quand je savais que je venais chez vous, j'ai discuté avec les femmes de ménage qui font un travail exceptionnel à l'Assemblée. Elles arrivent à 6 heures du matin.
Bien sûr.
Souvent, famille monoparentale avec des gamins qui n'ont pas la chance d'avoir leur maman qui les amène à l'école. Pour 1 500 euros par mois. Et elles ne vont pas dire qu'elles vont rester 30 mois chez elles à 100% de salaire. Donc on a un vrai débat. Mais je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense le communicant, comment on peut faire en France pour qu'on soit toujours obligé d'avoir une épée de Damoclès la veille des Jeux, la veille des vacances ? C'est toujours, vous savez, ce rapport de force. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une autre méthode pour concerter et négocier ?
Si le
je suis demandeur, cher monsieur.
C'est de la com', mais...
Je ne sais pas si le communicant a cette réponse, mais en tout cas, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick, parce qu'il a commencé par dire, je ne suis pas certain que le politique sache négocier. Mais en fait, je ne suis pas certain que ce soit une question de capacité, mais peut-être plutôt une question de culture. Parce que la négociation, c'est la culture du compromis, c'est-à-dire un arrangement entre plusieurs qui passe par des concessions mutuelles. Et en France, on n'a pas cette culture du compromis où les deux parties seraient gagnantes. Nous, pour avoir le sentiment d'être gagnant, il faut qu'il y ait un perdant en face. Donc on a plutôt la culture de l'affrontement. Et on n'utilise pas le rapport de force pour gagner, mais plutôt pour dominer. Donc voilà, on est dans la négociation du chantage et de la domination. Et donc pour moi, c'est un problème de culture. On n'a pas cette culture du compromis, de la négociation.
Comment voulez-vous avoir quand vous avez face à vous des gens qui menacent...
Non, mais ça concerne les deux parties. Ça concerne celui qui est plus fort à un moment face au plus faible et qui s'impose et qui donc n'est jamais dans la culture de ce compromis où finalement on va sortir satisfait parce que les deux parties vont être gagnantes. Donc c'est bon pour tout le monde. Non, en fait, on est dans la culture de c'est bon pour moi parce que j'écrase l'autre.
Mais
le travers, c'est ça. C'est qu'on est dans la culture, dans la situation du chantage permanent. Et dès que je peux mettre en difficulté une situation, et ben là, je profite de la situation pour faire valoir mes droits. C'est pas du compromis, c'est pas de la négo, ça.
Alors, oui et non. Oui, je suis d'accord avec vous parce que ce qui est visible, ce sont les grèves, ou ce sont les menaces de grève, voire les préavis de grève, voire les grèves. Au pire, les grèves. Et non, parce que, d'après ce que j'ai compris concernant les contrôleurs aériens, ça fait quand même un moment qu'il y a des négociations. Je pense pas que... Enfin, je suis pas là comme porte-parole des grévistes, mais je pense pas qu'on fasse grève comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même une culture du dialogue. Ensuite, je rejoins ce que vous avez dit. Pour aboutir à un compromis, chacun doit faire un pas vers l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Allemagne où la culture du consensus est quand même plus à l'œuvre. Il y a des pays, alors en Asie, moi qui voyage ou qui ai beaucoup voyagé en Asie, alors là, le sens de l'intérêt général, on parlait de l'intérêt général il y a un instant, est mis en avant au détriment de l'individualisme ou des individualités, ce qui provoque aussi d'autres dégâts, on pourrait en parler, des taux de suicide exponentiels. Donc là, sur ce sujet des contrôleurs aériens, c'est vrai qu'on a le sentiment, nous citoyens, passagers, que ce soit dans le train ou l'avion, qu'on est pris en otage. Bon. Et puis que on trouve toujours.
C'est pas un sentiment, c'est une réalité.
Et qu'on trouve de l'argent quand il faut trouver de l'argent. Et qu'on trouve de l'argent ou qu'on trouve des solutions quand il faut en trouver. Donc là, oui, je vous rejoins. mais pour les contrôleurs aériens, comme passagers...
Excusez-moi Anne, vous m'avez juste pas rejoint sur un point que je n'ai pas évoqué, c'est sur le fait qu'il n'y ait pas de sujet, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sujet. Oui. J'ai dit, c'est la façon dont on aborde le sujet qui est plus culturel qu'autre chose.
Oui.
Il y a un sujet, puis à partir du moment où ils viennent
mais
avec
comment vous faites
un
avec quelqu'un
table,
qui a un flag en face de vous pour discuter, enfin, c'est un peu ça quand même la question.
Eh ben, on est dans cette situation où on ne peut rien faire d'autre que de céder, je suis bien d'accord.
C'est
cette culture qui serait intéressante de changer.
Donc il faudrait faire du karaté pour faire tomber le...
Pas simple. Et alors, il faut savoir quand même que le trafic aérien, d'ici 2030, hein, d'ici 6 ans, il va augmenter de 20 à 30%. Ouais. Alors, ça n'est pas une excuse pour que telle ou telle catégorie de la population se mette en grève ou voit ses revendications aboutir. Mais il y a quand même ce contexte qu'il faut avoir à l'esprit. Le travail, bon, il est peut-être difficile. Il y a des tas d'autres métiers, vous l'avez souligné, monsieur le député, qui sont tout aussi pénibles, si ce n'est davantage.
Et moins payés.
Et bien moins payés. Donc il y a ça aussi. Mais on pointe du doigt les contrôleurs aériens. Bon. Mais il y a aussi des tas d'autres corporations. Alors c'est vrai que les grévistes profitent des moments.
Bah, oui, il y a des corporations qui ont un pouvoir de nuisance plus important que
absolument
plus important que les autres.
Absolument.
Mais ce qu'ont obtenu pour revenir aux conducteurs de la SNCF, c'est-à-dire une cessation d'activité anticipée 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois travaillés rémunérés à 75%. Et pour les contrôleurs, le dispositif est encore plus avantageux puisqu'ils pourront arrêter de travailler 36 mois avant, dont 18 mois payés à 75%, Christine Bouillot.
Oui, alors
on voit que l'approche des Jeux Olympiques...
Parce que ça s'appelle le rapport de force, le pouvoir de nuisance. Après, sur le modèle allemand, il commence aussi à s'effriter. Il y a eu, le mois dernier, je crois, des énormes grèves massives, parce que il y a un moment donné, on a commencé l'émission comme ça, en parlant de redistribution. Dans les transports allemands aussi, on demandait des hausses de salaire, on demandait de meilleures conditions de travail. Donc, il y a un moment donné, il y a aussi la façon dont le dialogue social est abordé au sein des structures et de ce qui s'y passe. Et donc, c'est de savoir, vous savez, on a beaucoup parlé du mouvement des Gilets jaunes, mais c'était quelque part un mouvement social complètement citoyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la cocotte minute, quand l'entreprise commence à chauffer, il faut être capable de sentir les signaux. Et comment on désamorce tout ça? C'est la culture de la discussion. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, et comment on fait? Comment on tient aussi à l'intérieur de l'entreprise? Récemment, il y a eu des grèves à la SNCF dont les syndicats étaient débordés par leur propre base. Donc on voit bien que on est sur une espèce de chape de revendication, de mécontentement qu'il faut savoir tenir. Je crois que la culture du dialogue, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver. Et c'est vrai que quand on est cheminot, ou qu'on est... je sais que les policiers vont manifester vendredi parce qu'ils veulent des primes. Je sais que dans les hôpitaux, c'est une occasion en or, les Jeux Olympiques, pour dire attention, ça fait des mois qu'on dit ça ne va pas, vous ne nous entendez pas, il n'y a pas de dialogue, on renvoie tout ça à des dates ultérieures. Eh bien, à un moment donné, ceux qui sont en première ligne des sujets sur lesquels l'actualité met les radars, eh bien, en profite. Sur les contrôleurs cheminots, ils ont obtenu quelque part ce que les contrôleurs aériens ont obtenu, eux, avant le conflit des retraites, c'est-à-dire les contrôleurs aériens ont été exclus de la réforme des retraites qui a touché l'ensemble des Français. Donc, si vous voulez, c'est une question de rapport de force aussi et de dialogue à l'intérieur d'entreprise. Et quand on dit dialogue, c'est vraiment deux parties qui se font face, et dans toute entreprise, il y a un rapport de force. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui est assez logique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ça serait très intéressant de le savoir. Pour l'instant, ils disent qu'ils ont trouvé un accord, qu'ils lèvent le préavis, mais savoir jusqu'où a été la direction générale de l'aviation, ça serait intéressant de connaître les modalités de l'accord.
Mais en même temps, bon, on verra avec les contrôleurs aériens. En revanche, la SNCF s'est actée, et ce que j'ai énoncé comme accord est bien réel. Donc ce matin, Bruno Retailleau parlait de l'achat de la paix sociale, c'est-à-dire qu'on a acheté la paix sociale avant les Jeux Olympiques, et c'est ce que j'évoquais en préambule de l'émission, à savoir, ça va, en plus du coût des infrastructures, de l'organisation, on va avoir aussi un coût social assez important. Ça va coûter très cher à l'État d'avoir la paix pendant ces 15 jours de Jeux Olympiques.
Oui. Si vous permettez rapidement, je voudrais aussi souligner que Autant quand on est en France, qu'on veut aller par exemple de Lille à Marseille, on peut prendre sa voiture, même si maintenant ça coûte cher avec l'augmentation du prix de l'essence, où on peut trouver des moyens alternatifs de transport. Quand on va de Paris à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, ben, il n'y a pas beaucoup de moyens alternatifs, alors sauf à prendre le bateau, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus long. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait trouver aussi des solutions, parce que l'avion, le mode de transport en avion, aérien, est le seul moyen de désenclaver un certain nombre de régions. Bon, Bien sûr. Le voit en France, on pourrait parler du continent africain, qui a besoin de développer ses infrastructures. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que se déplacer en avion, que ce soit mi-mai ou à d'autres périodes de l'année, il n'y a pas d'alternative pour certaines populations,
ou certaines régions. On peut rappeler aussi que le train coûte excessivement cher.
Oui.
Aujourd'hui, ce n'est pas donné. Une famille qui veut se déplacer en train, bah, il faut faire des acrobaties pour trouver les horaires pour arriver à se déplacer. Ouais. Et parfois, l'avion coûte même moins cher.
Ce que disait Frédéric sur la culture, vous savez, je porte une loi, c'est la reconnaissance des métiers de la médiation sociale. Dans la médiation, comment on crée du consensus? Comment on fait qu'à chaque partie ne se retrouve pas perdante et face à face? Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture avec les oppositions. Vous voyez bien, l'Assemblée nationale est devenue le vrai bac à sable, où on est toujours en confrontation. Et donc, on attend toujours le rapport de force, c'est-à-dire que l'État ne lâche pas. Et quand on se dit, ben, y a les Jeux ou il y a les vacances, on va perdre des points dans les sondages, on lâche. Donc, il faudrait qu'on invente cette culture du consensus. Et c'est vrai quand même, qu'on veuille ou pas, on est vraiment un pays de rébussier où chaque fois, les corporations se disent, c'est le moment, on peut profiter, parce que vous parlez, Valérie, du pistolet sur la table, c'est quasiment ça. Et moi, j'espère qu'un jour, on aura cette fabrique de consensus, se poser le débat en amont. Oui, on a des Jeux Olympiques. Oui, ceux qui habitent à Paris, ça sera compliqué pour eux. Oui, c'est certain. Sauf que les Jeux, c'est quand même aussi une représentation nationale. Alors, il ne fallait pas les faire.
Ouais.
Mais je pense quand même que c'est important pour notre jeunesse. Il y aura la Marseillaise qui sera chantée, enfin quand même. Donc moi, j'entends des Parisiens qui me disent, quand je prends mon taxi, « Ouais, mais vous, vous risquez rien à Montpellier, mais nous, pendant un mois, on aura de la galère. Mais vous avez les Jeux Olympiques. Paris, la plus belle du monde aussi, donc. Arrêtons toujours de nous taper dessus comme des sourds. Enfin, on ne peut pas se faire plaisir dans ce pays. »
Ouais.
On a excusez-moi ce coup de colère.
Oui, non, mais vous avez raison, tout le monde ne le partage pas, mais tout le monde ne partage pas ce sentiment, effectivement.
Valérie, pour vous, on aura un hélicoptère. Vous savez, les trucs qui se lèvent, drones. Je vous promets, je vais en parler à Emmanuel, vous aurez votre drone personnel. Vous et Christine, d'ailleurs, pour qu'elle vienne voir les Jeux.
Allez, on va marquer une pause, on va parler de la convocation de Mathilde Panot. Beaucoup de voix s'élèvent elle est convoquée pour apologie du terrorisme. Et beaucoup de voix s'élèvent même de ses adversaires qui trouvent qu'on ne doit pas judiciariser les commentaires politiques. À tout de suite.
Sud Radio Béziers.
104.7.
Sud Radio.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et on est ensemble jusqu'à midi, parlons de cette convocation donc de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui est convoquée pour apologie du terrorisme. Effectivement, on le disait hors antenne, pas trop de réactions politiques, mais c'est une. Alors peut-être on va se tourner vers la femme de loi que vous êtes. C'est très précis quand même, l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, oui, à Mathilde Panot ?
Alors, sans trop entrer dans la technique, c'est depuis 2014 que ce délit d'apologie du terrorisme peut être reproché à tout citoyen. Voilà, monsieur, madame, avant 2014, et c'est Bernard Cazeneuve qui a fait introduire cet ajout dans le code pénal. Avant 2014, c'était uniquement des organes de presse ou des médias qui pouvaient se voir reprocher ce délit d'apologie du terrorisme. Et là, ce qu'on note quand même, et on s'en faisait tous la réflexion hors antenne, c'est qu'il y a une judiciarisation croissante du débat politique, et ça, on peut le regretter. Moi, femme de loi, juriste, je suis très attachée à la liberté d'expression. Pour autant, je ne sais pas s'il y a délit ou pas. Ça, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais tout en étant attaché au principe qu'est la liberté d'expression, hein, dans une démocratie, il faut qu'on puisse s'exprimer comme on le souhaite. Tout en étant attaché à ce principe, je suis aussi attaché au respect de la loi. Donc, y a-t-il eu violation de la loi ou pas ? Je n'en sais rien. Mais s'il y a eu violation de la loi, il faudra que cette violation soit sanctionnée. Je m'étonne quand même, comme citoyenne, c'est plus la juriste qui parle, comme citoyenne, de voir que ça arrive en pleine campagne, après un certain nombre de provocations. Alors on sait de qui elles viennent. Le président de l'université de Lille était traité de nazi, et j'en passe. Des tas de provocations verbales qui sont absolument odieuses. Mais bon, il y a quand même. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une opportunité politique, je dirais pas des poursuites, parce qu'être convoqué, ça veut pas dire qu'il y aura une enquête, c'est le premier degré, première étape avant des poursuites éventuelles, donc ça fait le buzz. Et nous en parlons.
Ouais, absolument. Et ça victimise Mathilde Panot. Mais ça pose la question tout de même de cette judiciarisation. C'est quand même assez inédit ce qui s'est passé. Peut-être.
Vous rappelez quand même que l'immunité parlementaire. Si ces propos se font dans des propos politiques, elle ne peut pas être poursuivie. Mais en fait, le vrai débat, c'est la stratégie du leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon, qui est tout sauf un imbécile. Sa stratégie est très simple. Il veut cliver. Gaza, c'est pas son problème, c'est 2027. Donc, il veut récupérer les quartiers populaires, le vote musulman. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est pour ça que je veux pas en faire des tas de caisses, c'est que, en fait, il est dans cette stratégie du chaos. Et donc, moi, je suis désolé, mais ça tombe pas bien, tout ça. Parce que, vous savez, le problème de la politique, c'est où vous sortez vainqueur ou vous victimisez. Donc, aujourd'hui, un point de plus, parce que Mathilde Panot va dire, regardez, c'est la faute d'Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, elle sera entendue. Et donc, moi, je trouve qu'on fait du buzz. Et la politique, c'est noble et c'est sérieux. Et une partie d'LFI est en train d'abaisser le niveau pour simplement le leader Maximo qui puisse être au deuxième tour des présidentielles. C'est tout. Il s'en fout de ce qui se passe en ce moment. Ce qu'il veut, c'est le chaos.
Oui, mais sur la convocation en elle-même, Frédéric.
On dit que c'est la première fois qu'une présidente d'un groupe parlementaire est convoquée pour un motif aussi grave. C'est peut-être aussi la première fois que la présidente d'un groupe parlementaire se comporte comme se comporte Mathilde Panot à l'Assemblée, dans les médias, dans la rue. Et puis le coup politique qui lui est très favorable en réalité. Parce que ce qui annonce être convoquée, c'est elle qui tweet, c'est elle qui tente de récupérer le sujet, c'est elle. Mais qui a pour tactique de tout politiser, de tout conflictualiser? Mais tout ça ne fait que servir ce que vous disiez, cette façon de bordéliser la société plutôt que de la judiciariser. Donc c'est une grosse manipulation politique, en tout cas c'est très à leur avantage je trouve, et comme vous le disiez, du coup on en parle, et on parle pas du fond, mais le fond c'est à la police de le traiter et puis à la justice, mais en tout cas au niveau de la communication et de la communication politique, alors là c'est excellent pour eux, parce qu'on ne fait que servir, et puis quand ils parlent de déni de démocratie, c'est quand même la présidente d'un groupe parlementaire dont le chef retraité est seul à désigner les responsables au poste dans leur parti. Donc quand il parle de démocratie, moi ça me donne plutôt envie de rire, même si je suis plutôt en colère sur ce genre de sujet.
Après vous réagirez, Christine Bouillot.
Oui, alors factuellement, hein, c'est effectivement, ça permet surtout de parler de victimisation de la part des insoumis, mais je dirais aussi parce que j'ai écouté ce matin les porte-paroles du Rassemblement national qui soutiennent finalement les insoumis en parlant donc de d'indignation généralisée, parce que dans le même temps,
il faut bien qu'ils existent aussi. Hein.
Mais simplement, c'est que eux, ils sont visés, enfin, en tous les cas, le numéro 3 de la liste du RN pour les européennes, hein, Fabrice Leggeri, est poursuivi, lui. Il y a une plainte, pardon, qui a été déposée contre lui pour complicité de crimes contre l'humanité, complicité de torture par la Ligue des droits de l'homme et l'association Utopia 56, hein, pour des refoulements illégaux en mer, de bateaux de migrants, à l'époque où il était le patron de Frontex. Donc, tous ces éléments judiciaires permettent d'alimenter aussi la machine en termes de communication et de dire et de se positionner comme victime, de resserrer les enfin, finalement, chacun les uns autour, autour de leur troupe. Moi, j'ai envie de dire, il y a des lois et il y a des gens qui vont effectivement faire leur travail. À partir de là, on attendra de savoir si cette, par exemple, pour Mathilde Panot, si cette convocation va donner suite ou simplement.
Ça risque de tomber à l'eau, effectivement.
Vous savez, Valérie, le problème, pourquoi les gens, les Français, ont du mal à retrouver le chemin des urnes? Parce que quand vous voyez ça, est-ce qu'on part du quotidien des Français là? On est en train de régler des comptes. Mathilde Panot, Sébastien Chenu. Moi, c'est ce qui me fatigue en ce moment dans la politique, c'est qu'on passe du temps à essayer de régler des comptes entre politiques, alors que les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent qu'on règle le quotidien. Un dernier mot sur Jean-Luc Mélenchon, quand même. Pendant les dernières présidentielles, c'était celui qui avait le capital le plus important. Est-ce que vous connaissez la retraite de Jean-Luc Mélenchon? Parce que moi, j'ai des retraités qui m'écrivent, les filles, vous êtes avec le président des riches. Mais Jean-Luc Mélenchon, sa retraite, c'est 100 000 euros par an, 8 500 euros par mois. Il n'a jamais bossé, si ce n'est que des mandats politiques. Et il se débrouille, parce qu'il est excellent, à expliquer que la Macronie, Horizon, Modem, ce sont des gens qui s'en mettent plein les poches. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de dire quand même aux Français, ou alors on est mauvais, hein. On a besoin de vous d'ailleurs pour faire la communication, cher Frédéric, parce qu'il faut dire des vérités. 8 500 euros par mois de retraite, il a travaillé 3 mois dans sa vie. Et il vient nous expliquer à nous qu'on est des gros méchants et des gros vilains et des patrons de riches. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire aux gens et les filles, ça suffit à un moment donné. Il y a une partie des LFI, mais qu'une petite partie. J'enlève Garrido, Corbière, Clémentine Autain ou Ruffin, et d'ailleurs, vous verrez qu'ils montent dans les sondages, qui sont vraiment, vous savez, dans la guerre permanente. Ouais. On les voit à l'Assemblée, le couteau entre les dents. Je vois ces jeunes comme Léoman ou Vanier, j'ai fait des débats avec eux, y compris chez vous. On a l'impression qu'ils vont vous sauter à la gorge. Mais la politique, c'est du calme, c'est de l'humilité, c'est de l'action intelligente, c'est de la prospective. Là, il n'y en a pas, c'est la recherche du chaos permanent.
Et ça fonctionne, je vois un sondage, c'est Talouna pour Challenge et M6, donc intention de vote pour les élections européennes auprès des électeurs musulmans, 38% voteraient LFI, 14% pour la liste PS, 8% pour les écologistes, 1% pour la liste Reconquête, etc., 6% pour les Républicains et 6% pour les... Donc ça veut dire que cette stratégie fonctionne.
Mais ils ont inventé un enjeu électoral. Électoraliste, c'est une question qui ne concerne ni l'Europe ni la France directement. Ça concerne des gens, des communautés. Ça concerne des gens. Mais ils ont inventé cet enjeu pour en faire un enjeu électoraliste, mais qui est quand même, je pense, quand même très confiné.
Et un seul coup, à mon avis.
Et voilà, un seul coup, très confiné. Donc ils n'iront pas loin avec ça, mais par contre, ils font beaucoup de mal à la politique et à la démocratie, même s'ils se prétendent en être les défenseurs.
C'est eux qui se disent que ce n'est pas de la démocratie, cette convocation.
Quand vous savez que Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui décide tout seul, Valérie, on le sait très bien. Ouais. Il décide tout seul de tout avec Manuel Bompard. Ouais. Et encore une fois, je ne suis pas certaine d'ailleurs que ça serve les musulmans. Parce que c'est quoi ce pays? Ce pays, c'est la laïcité, c'est la liberté. Tout le monde doit s'entendre. On est quand même dans un pays fraternel et la démocratie existe. Toute la journée, ils nous donnent des leçons de démocratie et c'est le Tché qui décide tout seul. Enfin, quand même, et je fais le pari, vous verrez que François Ruffin, qui est quelqu'un de bien, je vous fais le pari, Valérie, que dans quelques temps, des dossiers vont sortir sur François Ruffin parce qu'il va gêner le chef.
Christine, commentaire?
Oui, c'est effectivement des affaires judiciaires. Enfin, c'est que le début d'une procédure judiciaire. On n'a pas été les chercher entre quatre murs. Et les mots prononcés pour défendre, par exemple, Mathilde Panot, on a l'impression, Jean-Luc Mélenchon avait parlé d'événements sans précédent dans l'histoire. On voulait faire taire les insoumis, etc. Non, les insoumis sont pas bâillonnés. Et puis, pour l'instant, elle est juste convoquée pour s'expliquer. Ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'après on a le droit au silence, si je ne me trompe pas, sur le plan pénal. Donc je pense que tout ça permet aussi de faire de la, on va dire, du ressoudage de communication autour d'un candidat et autour d'une campagne. C'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, la candidate pour les européennes, pour les insoumis, elle est un peu débordée par la figure tutélaire du grand chef et on n'entend plus trop. Enfin, c'est compliqué pour ça. Et donc, le sujet des européennes, là, pour l'instant, pour les Français, il est effectivement très très loin. Je rappelle quand même que la législature européenne se termine à la fin de la semaine. Hein. C'est les derniers jours de cette mandature. Donc, il serait intéressant de quand même se poser sur les vrais sujets européens sur lesquels on est appelé à se prononcer le 9 juin.
Absolument.
Prochain.
Merci à tous les quatre. Tout de suite, André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio.
Sud Radio Clermont-Ferrand
88.1
Sud Radio.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se barre entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants, se mentir, à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants, c'est pas que je voulais partir mais c'est violent, je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup.